Le texte que nous allons commenter se trouve dans l'épître de Saint Jacques au chapitre 2, versets 1 à 5. En voici la lecture. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège, installe-toi bien. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là, debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds. » Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des fausses valeurs? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Ah, la fameuse épître de Saint Jacques, épître pas très connue, que Luther lui-même n'aimait pas beaucoup. En fait, cette épître a connu deux périodes de rédaction, on peut dire. C'est à la fois une épître qui nous montre les tout débuts du christianisme. C'est vraiment à l'état embryonnaire après la mort de Jésus. Il y a des passages qui le montrent. Et puis, oui, enfin, je reviens à ces passages qui insistent justement sur les richesses, la pauvreté, le fait d'agir, etc., qui nous rappellent beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Bon, ça s'explique parce que l'épître de Saint Jacques a probablement été écrit par Jacques de la communauté de Jérusalem, un parent de Jésus, qu'on nomme frère, mais qui est cousin en fait de Jésus. Et Saint Jacques était le chef des judéo-chrétiens, des juifs convertis au christianisme, et ils étaient très à cheval sur la loi de Moïse et sur l'Ancien Testament, notamment la pratique de la loi. Qui va s'opposer à saint Paul, et c'est là où nous avons la deuxième phase d'écriture de cette épître, où effectivement, il y a une phase qui a été écrite bien plus tard, parce qu'il y a des passages dans saint Jacques où on voit que l'auteur eh bien critique un petit peu la façon de penser de saint Paul. Alors, comme c'est le même auteur en profondeur, Dieu, en fait, il ne faut pas y voir une contradiction, mais plutôt une complémentarité, l'un nuançant l'autre. Je pensais au passage où justement, saint Paul insiste beaucoup sur la foi, épître aux Galates, épître aux Romains, et saint Jacques, je crois que c'est au chapitre 3, où il nous dit que la foi sans les œuvres est morte, alors que saint Paul s'évertuait à dire que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais la foi. Mais en fait, c'est très complémentaire. Donc ça, c'est l'épître de saint Jacques. Et nous retrouvons ce côté très primitif de l'épître de saint Jacques dans la communauté chrétienne, où là, il va insister de nouveau sur « riche et pauvre ». Alors, le tableau peut paraître un petit peu forcé, mais il est bon de forcer le tableau pour faire ressortir des idées, comment dire, qui peuvent être facilement passées sous silence. Alors, avant de commencer, un petit commentaire verset par verset. Bien, ici, on voit l'interprétation littérale, mais qui est importante. D'abord, bon, les richesses matérielles, effectivement. Il ne faut pas compter là-dessus. Ce qui fait notre richesse et notre foi, c'est ce qui est plus ou moins dit, hein, puisque Dieu a fait riches les pauvres de la foi. Est-ce qu'on est vraiment convaincu que notre richesse est notre foi, et pas notre portefeuille, notre voiture, ou notre lecteur DVD, notre dernière télé à plasma, notre ordinateur, tout ce que vous voulez, ou nos propres qualités que nous pensons avoir? Notre richesse, c'est notre foi. Notre richesse, c'est Dieu. C'est notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Autrement, on n'est pas disciple du Christ, on est disciple de soi-même, disciple de son téléviseur, disciple de son ordinateur, disciple de sa voiture, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas si forcé que ça, parce que nous sommes tous tentés par ça. Alors, maintenant, si on va à une interprétation un petit peu plus spirituelle, mais qui rejoint toujours, ça doit toujours rejoindre l'interprétation littérale, je vous propose d'aller verset par verset, c'est ça qui nous permettra de voir une interprétation un petit peu plus spirituelle. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Quand comprendrons-nous, chrétiens, que la foi, ce n'est pas un travail par intermittence ou à mi-temps? La foi est un travail à plein temps. Si nous en sommes encore à avoir des considérations de personnes, c'est que l'on fait passer notre orgueil, nos préjugés, etc., avant Jésus, qui doit avoir la première place. Alors, on caricature souvent, on dit souvent qu'à l'église, c'est les vieilles grenouilles de bénitier qui viennent critiquer le chapeau de la voisine. C'est effectivement très désobligeant de dire ça. Mais il y a un peu de ça. Je suis sûr que même parfois quand on va à l'église, ou au culte, pour les protestants, eh bien, on a des pensées qui ne sont pas toujours dignes du Seigneur. Hein, c'est ce que Saint Jacques reproche lui-même en disant dans votre assemblée, imaginez qu'il y a un riche ou un pauvre, etc. Donc, chrétien, c'est vraiment nous ouvrir le plus que l'on peut, déjà par la prière, à la présence de Jésus, à en faire notre Seigneur de gloire, c'est-à-dire notre roi. Et s'il passe en premier, alors les considérations de personnes, etc., passeront après. Parce que tout ce qui fait qu'on a des considérations de personnes, c'est qu'on met autre chose avant Jésus, quelque chose qui a un rapport avec le péché, qui est l'orgueil, ou les préjugés. Alors, imaginons que, le texte continue, dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants, et vous lui dites, « Prends ce siège, installe-toi bien, et vous dites au pauvre, toi, reste là debout, ou bien, assieds-toi par terre, à mes pieds. » Alors, il y a deux niveaux d'interprétation. Bon, il y a le niveau littéral, que je passe sous silence. Hein, effectivement, riche, pauvre. Il ne faut pas mépriser le pauvre. C'est l'interprétation littérale, mais qui est importante. Il ne faut pas avoir du mépris pour tout ce qui n'est pas riche, etc. Mais en profondeur, c'est un avertissement pour ne pas juger sur les apparences. Ça me fait penser au premier livre de Samuel, quand Samuel le prophète est envoyé par Dieu pour choisir un remplaçant à Saül que Dieu a rejeté parce que Saül lui-même a rejeté Dieu. Il n'a pas fait de Dieu son Seigneur de gloire. Il a pensé que Dieu c'était quelque chose d'intermittent, une religion plus qu'une relation. Eh bien Samuel donc va chez Jessé et il y a 7 frères. 6 sont là, ils se passent en revue, Samuel pense que c'est le plus beau, le plus fort, etc., qui va être choisi par Dieu, et Dieu lui dit, non, non, c'est toi tu regardes à l'apparence, moi au cœur. Ben, ce texte de Saint Jacques dit la même chose, c'est normal, puisque la parole de Dieu, c'est le même auteur, à plusieurs siècles d'écart, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui montre que la Bible, d'ailleurs, est inspirée. Donc, trop souvent, nous jugeons sur l'apparence, et nous allons pas au cœur. Alors, ce qui d'abord fait que nous avons tendance, effectivement, à aimer les puissants, c'est l'interprétation littérale de ce texte. Nous avons tendance à aimer ce qui brille, etc. Et le pauvre, le déprimé, celui qui se sent seul, le collant, oh là là, encore lui, on a tendance à l'éviter. Ah ben voilà, mais on est en plein dans ce texte. Nous n'avons pas Jésus comme Seigneur de gloire. Parce que Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous rendre riches de sa divinité. C'est ce que dit saint Paul. Si Dieu avait ce raisonnement-là, il nous aurait délaissés depuis longtemps. Donc, si nous voulons être disciples du Christ, il nous faut adopter la manière de penser de Jésus. C'est ce que dit Paul en Épître aux Éphésiens, ce magnifique verset. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, voyez, et même pour une personne, alors les riches pauvres, ou la personne collante, déprimée, on est moins attiré par elle que par la personne, disons, qui est sûre d'elle, à l'aise, qui peut lui donner quelque chose, etc. En apparence, parce que le pauvre peut nous apporter plus que nous ne pensons. Eh bien, pareil. Vous savez, bon, pensons au truc. Je suis un homme, donc une belle femme, ah, on regarde l'apparence, ah, elle est jolie, elle est bien habillée. Mais certaines fois, Dieu nous dit, mais tu sais, derrière ces beaux vêtements, etc., il y a beaucoup de laideur de péché peut-être, et donc beaucoup de pauvreté. Et donc, des gens que nous pensons être riches ou sûrs d'eux, etc., qui nous attirent, ont besoin de notre prière. Ou parfois, ces gens nous irritent. Parce qu'ils ont l'air tellement sûrs d'eux, ils sont tellement loin de Dieu, parce qu'ils sont tellement dans le clinquant, mais ils sont pauvres. Et alors ne traitons pas le pauvre qu'est leur cœur avec mépris, toi reste là debout, assieds-toi à mes pieds, mais mettons-nous au service de cette pauvreté qui est à l'intérieur même de celui qui est le plus riche. Vous savez, il y a, je sais pas, vous êtes rendu compte, que de suicides parmi les stars, parmi les chanteurs, que de pauvreté. Je ne sais pas qui est le plus pauvre. Parce que dans beaucoup de pays du tiers-monde, je l'ai lu, je n'ai pas vu, mais je l'ai lu par des gens, des missionnaires. Oh, bien sûr, il vaudrait mieux qu'ils aient de l'argent. Mais il y a des gestes de solidarité et une profondeur spirituelle qui rend bien pauvre l'égoïsme et le clinquant de certaines stars qui se terminent souvent en dépression et en suicide. Donc ce texte nous dit, ne pas juger à l'apparence, déjà, au sens littéral, ne pas rechercher ce qui peut égoïstement nous satisfaire, celui qui est sûr de lui, ceci, cela, mais aussi aller vers celui qui est déprimé, etc. Parce que la richesse n'est pas là où on croit. C'est aussi une manière de dire que, au-delà des apparences, il y a beaucoup plus de pauvreté qu'on ne croit. Et donc certaines personnes qui n'ont a priori pas besoin de Dieu, pas besoin de nous, ont beaucoup plus besoin de notre prière et notre charité, notre présence discrète que nous le pensons, à commencer par nos ennemis. On peut aussi interpréter ce texte comme vous avez deux stratégies. Celle qui est celle du riche, clinquant, mais ma force, moi, mon orgueil, moi je. Donc c'est la personne en vêtements tentant, avec une grosse bague. Quand on a un problème, quand on veut agir sur les autres, ou quand on a nous-mêmes un problème, il y a la solution du riche. Je vais faire quelque chose. Je pense à certains hommes politiques, tout de suite ils veulent aller dans l'action. Je vais montrer que je suis le plus fort. C'est l'échec. C'est l'échec, il n'y a pas grand-chose à long terme. Puis il y a ce pauvre, c'est Jésus, c'est la croix. Hein, Jésus qui refuse un moment dans l'évangile d'envoyer la foudre sur une ville de Samarie, contrairement à ce que Jacques et Jean lui demandaient, mais qui dit qu'il est venu sauver l'humanité et non pas la juger. C'est le moyen du pauvre. Jésus qui refuse de descendre de sa croix, ça lui était facile. Jésus qui ne refuse pas de boire la coupe que le Père lui tend. Eh bien, ça c'est le moyen du pauvre. Dieu nous propose un autre moyen qui est la charité, la patience devant les soucis, devant celui qui nous irrite, et la prière. Ah là là, on va dire, mais oui, c'est bien ça, on sait que c'est efficace, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Non, prie, prie. Et puis, une fois que tu as prié, prolonge ta prière. Ce n'est pas à côté. Prolonge ta prière en amour discret, patient, devant celui qui t'irrite, devant tes problèmes, devant tes soucis. Tu verras, ça va se calmer tout seul avec le temps. Le temps qu'il faut à Dieu pour que sa grâce agisse lentement, respectueusement et sûrement. Alors après, vous avez le texte qui continue. Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Oui, effectivement, ce que je viens de dire, les valeurs fausses, juger sur l'apparence, prendre le moyen de la force plutôt que de la prière, etc. Je ne reviens pas dessus, des valeurs fausses. Le texte dit quand même que c'est faire des différences. Si nous voulons être justes, il faut réfléchir et agir avec Jésus comme Seigneur de gloire, donc dans la prière. Parce que si nous voulons, même si nous voulons faire du bien, mais que ce n'est pas inspiré par la prière, eh bien, nous allons faire des différences, parce que spontanément, nous serons attirés par l'apparence, par le clinquant, ou les moyens auxquels nous aurons recours ne seront pas ancrés en Dieu, donc dans l'amour, mais dans notre petit moi et notre orgueil. D'ailleurs, dans la Bible, le juste, ce n'est pas forcément celui qui applique les commandements, etc. D'abord, le juste, c'est celui qui s'ajuste à Dieu. C'est exactement ce que ce texte vient de nous dire. Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Nous devons avoir la façon de penser de Dieu. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Nous devons apprendre à penser comme Dieu. Mais comment apprendre à penser comme Dieu si ce n'est par la prière et la lecture de sa parole? Si vous voulez, comment dire, connaître quelqu'un, il faut le fréquenter. Si vous voulez connaître Dieu et apprendre à penser comme lui, il n'y a pas d'autre moyen que de prier et lire sa parole. Et alors, vous comprendrez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Derrière la richesse se cache beaucoup de pauvreté, et donc au lieu d'avoir du mépris, il faut avoir de l'amour. Que Dieu ne va pas forcément à l'apparence, donc la personne qui nous semble pas très attirante, en fait, elle l'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle va nous tourner vers l'intérieur. Parce que si on reste avec des gens qui sont en apparence sûrs d'eux, tout ce qui est superficiel, on va pas penser vie intérieure. On va rester à la surface. Mais Dieu, lui, voit au cœur. Donc, en voyant le plus pauvre, matériellement, certes, mais surtout spirituellement, affectivement, eh bien, tout de suite, nous irons vers l'intérieur. Et Dieu est le Dieu de l'invisible. Dieu est le Dieu de l'intériorité. Dieu est le Dieu qui va à la vérité, au plus profond des choses. Pourquoi j'insiste sur le mot intérieur, invisible? Mais parce que finalement, le texte nous dit, quelle est la chose, enfin, qu'est-ce qui fait que même celui qui s'adonne au plaisir matériel, qui ne voit qu'en apparence, qu'est-ce qui fondamentalement guide l'homme? C'est un sentiment, l'amour. Mais l'amour est invisible. Et Dieu est amour. D'ailleurs, ce texte dit, Dieu a fait héritier les pauvres, donc, les a fait hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'intériorité, c'est donc l'amour. C'est tout à fait normal, parce que l'amour est le sentiment par excellence qui va au fond des choses, qui se passe dans où? Dans le cœur, et non pas dans la tête. Donc Dieu est celui qui aime, donc Dieu, pour lui, ce qui compte, c'est vraiment aimer, aimer nos frères et l'aimer lui. L'aimer, le texte nous le dit, en allant vers le plus pauvre, spirituellement, affectivement et matériellement, ou en voyant la pauvreté derrière la richesse apparente, etc., nous ouvrir à la grâce de Dieu, tout ça, donc, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain. Hein, parce que je vous rappelle, bien sûr, c'est dans l'Évangile que aimer Dieu, c'est aussi, on l'aime aussi à travers notre prochain. Eh bien, ça, donc, allons à l'intérieur des choses. Ce texte nous dit, voilà, vous rencontrerez Dieu si vous avez un regard vers l'intérieur, vers l'invisible. Donc, vous allez au sentiment, donc à l'amour. Et qui touche l'amour touche Dieu. Et forcément, qui touche Dieu commence à aimer ses frères, à les regarder différemment, non plus selon les apparences. Voyez? Et là, le texte nous dit aussi, avec l'amour, il y a une autre composante invisible, c'est la foi. Notre richesse, c'est notre foi. Et n'opposons pas la foi et l'amour. C'est ce que je disais tout à l'heure, Paul et Jacques, parce que l'amour se nourrit de la foi. Parce que si tu as la foi, tu deviens patient, parce que tu sais que tes gestes d'amour ont beaucoup plus d'impact qu'il n'y paraît, parce qu'ils sont précédés, accompagnés, achevés par ta prière. C'est ça la foi. Donc le moindre acte de charité posé, tu sais qu'il y a une efficacité dans le temps bien plus grande. Donc tu es motivé pour aimer davantage. Foi et amour, main dans la main. Tu es pauvre devant Dieu, donc tu es riche de ta foi, et donc tu aimes Dieu, et donc tu hérites du royaume. C'est ce que nous dit ce texte. Et je vous ferai remarquer que quand je dis que Dieu est le maître de l'invisible et de l'intérieur, mais le texte vient nous dire dans le dernier passage, finalement, il donne le royaume à ceux qui l'auront aimé, mais l'invisible, l'intérieur, est une personne, c'est Dieu. C'est pas l'invisible, quelque chose d'abstrait, c'est Dieu. Dieu est amour, Dieu est l'invisible, c'est une personne. Le monde réel est une personne, au-delà des apparences. Il est là au fond de toi, dans ton cœur. C'est le germe, comme le dit Jérémie ou comme le dit Zacharie. Il est là dans ton cœur. Il est là au-delà de ton cœur et il t'attend par-delà la mort, qui est la fin des apparences. Voilà. C'était ce petit commentaire qui, je l'espère, vous a aidé. Alors maintenant, je vous suggère de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence, où vous allez pouvoir, à partir de ce commentaire, donc prier. Et ensuite, je me joindrai à vous en priant en haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, aide-nous, oui, aide-nous à regarder au-delà des apparences. Donne-nous la vision, ce regard de foi et d'amour, qui voit le pauvre là où il y a le riche. Seigneur, apprends-nous à faire de toi notre Seigneur de gloire, notre roi, et non pas une idée, une religion que l'on pratique, ou même pas à mi-temps, mais une fois par semaine, une petite heure par semaine le dimanche. Non, Jésus, viens dans notre cœur, sois notre Seigneur de gloire. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement.